Laurent, bonjour.
Bonjour.
Économiste à l'OFCE, professeur à l'université de Stanford et aussi à Sciences Po, qui publie Nos mythologies économiques. Nos mythologies économiques, c'est en quelque sorte des mystifications politiques sur lesquelles nous allons revenir. Mais c'est avant tout un livre, Éloi Laurent, qui dit, bon, maintenant, ça suffit. C'est un livre de ras-le-bol. En tous les cas, c'est comme ça que je l'ai lu. Un livre de ras-le-bol qui dit, il faut sortir de tous ces discours et proposer autre chose. Est-ce que je me trompe ?
Non, vous vous trompez pas du tout. C'est vrai, c'est un livre, en tout cas, disons, de pas de colère, mais d'exaspération. Et je dois dire, en tant qu'économiste, de voir à quel point l'économie a pris le contrôle, à la fois, en un sens, dans les sciences sociales, mais surtout a pris le contrôle du débat public. De voir à quel point le débat public est pollué par des idées qui sont des idées économiques, avancé par des gens qui souvent ne les maîtrisent pas, ne savent pas qu'il s'agit de théories qui sont contestées, contestables et qui sont discutables et qui en font, au fond, des vérités d'autorité. Et de voir à quel point le débat public se réduit des questions sociales absolument majeures à quelques idées économiques qui ont été démenties au moins depuis 30 ans, c'est vrai que ça finit par être un petit peu exaspérant. On parlait il y a un instant de ce qui s'est passé ce week-end chez les Républicains, d'entendre dans la bouche d'un ancien président de la République que la question fondamentale en France et la compétitivité des entreprises, ce qui est exactement une mythologie économique, et de voir quelqu'un qui construit l'intégralité de son discours économique autour de ça, sans mentionner la question des services publics, des services sociaux, de la question des infrastructures, de la question de l'État-providence, de la question de la protection sociale, mais la seule chose qui compte, c'est la compétitivité des entreprises. On voit de quelle manière l'économie est devenue une espèce de trou noir qui absorbe absolument toutes les autres questions et mise en avant par des gens qui sont à la fois profondément des amateurs, c'est-à-dire ils ne savent pas de quoi ils parlent, et en même temps sont des idéologues. Et on est dans un mélange d'amateurisme et d'idéologie qui, je pense, est une véritable un poison pour le discours démocratique, parce que ces questions économiques ne sont plus débattues, elles sont considérées comme allant de soi, et ça c'est un vrai danger pour notre démocratie.
Mais ce qui est fou, Éloi Laurent, c'est que vous n'êtes pas le premier, ce qui n'enlève pas la qualité de votre ouvrage, mais vous n'êtes pas le premier à dénoncer ce primat de l'économie sur le politique, ce discours néolibéral, voire la néolibéralisation des esprits, cette idée qu'il y aurait une seule vérité en économie. D'ailleurs, un certain nombre d'économistes hétérodoxes par rapport à l'orthodoxie sont venu déjà au micro de la grande table l'exprimer. La semaine dernière, 80 économistes ont signé un appel pour sortir de l'impasse économique. D'ailleurs, vous nous direz pourquoi peut-être vous l'avez pas signé cet appel, c'est des choses différentes qui s'expriment. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui avec un essai d'économiste à qui on peut reprocher un autre type de discours? On peut dire, bah écoutez, vous reprochez l'idéologie dominante selon vous qui pollue les débats, ben vous voyez, on peut vous entendre avec votre propre idéologie.
Oui, enfin, sauf que je pense que vous avez raison. C'est-à-dire, il y a une question qui est pourquoi croire cet économiste plutôt que tel autre. Et je pense que la raison qui fait qu'on peut croire quelqu'un, c'est qu'on peut en douter. Je pense que quelqu'un qui vient vers vous en vous disant les économistes disent que, et pire encore, tous les économistes sérieux disent que, vous savez que celui-là est un escroc. Quelqu'un qui vient vers vous en vous disant interrogeons-nous sur les idées qui traînent dans le débat public et qui sont des purs produits d'une certaine idéologie néoclassique, déjà, on peut, à mon avis, avoir davantage confiance. Et si mon livre a une fonction, c'est d'inviter au questionnement économique. C'est pas de fermer les débats, c'est de les rouvrir en prenant des choses très simples qui traînent absolument partout et dont on pense qu'ils sont le dernier mot d'une question, par exemple, la question de la concurrence, etc. Et on l'a vu sur la question des marchés agricoles, par exemple. À quel point, par exemple, la question politique et la question économique sont imbriquées dans cette affaire qu'on nous présente comme simplement résultant du fonctionnement normal des marchés mondiaux. Ah bah, il y a forcément une crise de l'agriculture française puisqu'il y a la mondialisation qui a décidé qu'il y aurait une crise. Alors que pas du tout. Il y a des dizaines d'intermédiaires, il y a des systèmes extrêmement compliqués. Donc il faut arriver à l'économie politique, à une forme de complexité. Et au fond, mon livre est vraiment une invitation à questionner, pas une invitation ni à admonester, ni à faire la morale. Et moi, je suis frappé par la façon dont aujourd'hui l'économie fait la morale, ce qui est quand même un comble quand on pense à la façon dont l'économie est née contre la morale, précisément. Et aujourd'hui, l'économie moralise. C'est-à-dire les questions économiques sont devenues des questions de l'ordre du bien et du mal. Vous faites bien ou vous faites mal. Ça n'a jamais été ça, l'économie. L'économie et l'économie politique, depuis Adam Smith, c'est une discipline, ça n'est pas une science, c'est une discipline qui propose une interprétation du monde social qui doit être constamment mise en débat. Ça n'est ni la pureté du monde physique. On ne trouvera pas les ondes gravitationnelles en économie, ça n'existe pas. Il s'agit d'interpréter un monde social, et donc il y a des jugements normatifs, et tout ça doit être débattu de manière démocratique. Ce que les économistes peuvent faire de mieux, à mon avis, c'est proposer au débat public des idées ouvertes. Certainement pas des sentences définitives sur les questions. Inviter les gens à remettre en cause les structures existantes de pouvoir, etc. C'est ça que peut faire l'économie. Et quand on pense à tous les grands économistes, Adam Smith le premier, à l'époque, c'était un révolutionnaire. Adam Smith était quelqu'un qui vivait dans un monde mercantiliste, qui vivait dans un monde fermé, et qui a dit, au fond, le libre-échange peut être un moyen de s'enrichir. À l'époque, c'est une idée complètement révolutionnaire, qui évidemment, aujourd'hui, est considérée comme une idée conservatrice. À l'époque, c'était la révolution. Amartya Sen, quand il arrive et qu'il remet en cause la rationalité économique, aussi est un révolutionnaire. Donc ça commence toujours par une interrogation sur le paradigme dominant, et ça commence toujours par, en tout cas moi, tous les grands économistes que je connaisse commencent par inviter les lecteurs à questionner le paradigme dominant. Et c'est ça que ce livre propose de faire.
Antoine ?
Oui, ce paradigme dominant dont vous parlez, cette interprétation dominante, ça serait bien peut-être d'arriver à la définir plus précisément, parce que c'est pas uniquement dans la tradition néoclassique des économistes dont vous parliez à l'instant, c'est quand même une croyance qui s'est répandue assez largement maintenant dans l'opinion, et dont vous relevez donc les principaux propos. J'aimerais bien savoir comment est-ce que ça ne repose pas sur une vision du monde, je dirais, plus philosophique, et que le combat, il est aussi déjà avant même d'aller dans le fond, de voir où est la faille sur le plan de la vision du monde, de l'interprétation du monde.
Édouard Laurent.
D'abord, que ça relève de philosophie, je veux dire, de la philosophie, l'économie a été pendant très très longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, une branche de la philosophie. Ça n'est qu'au début du XXe siècle, avec la fondation de l'American Economic Association, que l'économie se donne pour une science, qu'elle essaye de se calquer sur la physique, et qu'elle dit dans un débat célèbre qui a eu lieu à l'American Economic Association entre deux économistes, l'économiste qui l'a emporté des deux a dit maintenant, foin des sentiments, du sentimentalisme, les questions éthiques ne doivent plus préoccuper les économistes, ce qui doit nous préoccuper c'est l'efficacité. Et donc on évacue les questions éthiques, ce qui veut dire qu'on évacue la question de la répartition des richesses et on se concentre sur la question de la production et de l'efficacité économique.
Parce que ça sera plus éthique aussi d'être efficace, parce qu'on pourra redistribuer,
non, parce que
c'est ça aussi l'idée.
Parce qu'on croit, et ça c'est par exemple ce que fera Léon Valras avec les théorèmes du bien-être, que quelque chose qui est efficace est nécessairement juste. C'est ce qu'on appelle les théorèmes de l'économie du bien-être. Et cette idée que l'efficacité est juste, qui est une des choses que je démonte dans le livre. En réalité, les inégalités sont injustes, elles sont d'ailleurs inefficaces, mais l'idée que l'efficacité est nécessairement juste, c'est en fait quelque chose qui traîne depuis très très longtemps dans le monde économique. Donc oui, c'est des questions philosophiques. Alors maintenant, pour répondre précisément à la question, moi je vois trois déclinaisons possibles du paradigme dominant. C'est-à-dire, la première déclinaison, c'est le fait qu'on est dans un monde néolibéral depuis, grosso modo, le début des années 80. Ça, je crois que ça fait à peu près plus de mystère pour personne. Donc, qu'est-ce que
ça, c'est pas une idéologie, c'est un fait.
Oui, c'est un fait. Donc, qu'est-ce que le néolibéralisme? C'est à la fois une aggravation de la théorie libérale et surtout, un paradigme dans lequel l'État fait les intérêts du marché. C'est-à-dire dans lequel ça n'est pas tant que l'État s'oppose au marché que l'État fait les intérêts du marché. Et ça, c'est vraiment fondamental, même si ce sont des choses connues, et c'est vrai, bien sûr, je suis pas le premier, de toute façon, on n'est jamais, vous savez, il y a un économiste justement qui disait quand vous êtes comme ça, un gentil petit rat qui court vers la plage, vous pensez que vous êtes le seul à aller dans une direction, vous regardez à droite et à gauche et vous vous rendez compte qu'il y en a 100 comme vous qui vont vers le même point. Donc ça, c'est la modestie, si vous voulez, des sciences sociales, c'est qu'en fait, tout le monde a déjà tout dit et que on reformule des questions. Mais simplement, je crois que c'est le bon moment pour les reformuler. C'est-à-dire qu'on est en France à un moment où on formule des programmes, on formule des idées, on sent qu'un basculement est possible, même si en même temps on sent qu'il y a des pesanteurs. Et moi, je perçois l'économie comme quelque chose qui ferme le jeu, comme quelque chose qui dit, au fond, il n'y a pas d'alternative.
Vous trouvez qu'on manque de débat ?
Il n'y a pas de débat, il y a des grandes questions qui sont réglées. Le rôle de la France dans les 10 prochaines années, c'est de s'adapter à la mondialisation via les politiques de compétitivité et les réformes structurelles. Point à la ligne. Voilà. Donc le néolibéralisme, c'est ça. Ensuite, quelque chose de relativement nouveau, que j'appelle la sociale xénophobie, la façon dont désormais la question xénophobe en Europe instrumentalise le modèle social contre les immigrés et les étrangers, en disant c'est pas qu'on les aime pas parce que ils sont différents de nous culturellement, mais c'est parce qu'ils viennent nous voler une prospérité finissante et on veut s'arc-bouter là-dessus. Et puis la troisième mythologie qui est l'écolo-scepticisme, qui nous empêche de penser le long terme et qui en est fait en réalité déjà ici, et qui est le fait de déconsidérer les préoccupations environnementales comme coûtant trop cher. Et ce que j'essaye de faire, évidemment c'est 100 pages donc c'est assez bref, mais c'est vraiment, voilà, de m'opposer à ça. Je dirais, le paradigme passé, qui est encore de beaux restes, le paradigme émergent, qui est la sociale xénophobie, et puis le paradigme de l'avenir, qui est la lutte contre la préoccupation écologique.
Alors, ceci étant dit, ouvrons la discussion, ouvrons le débat. Oui.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Une discussion très ouverte autour du livre d'Éloi Laurent, économiste, qui publie Nos mythologies économiques aux éditions Les Liens qui libèrent, et autour de la table, Antoine Mercier, que vous avez entendu, et le professeur de sciences politiques, puisqu'il est question d'économie politique, Frédéric Savicky. Frédéric, c'est à vous.
Merci Caroline. Bon, je ne vais pas faire l'économiste, parce que comme il est indiqué dans le livre, faire l'économiste, c'est l'apanage de ceux qui veulent apparaître importants de nos jours et qui recourent en fait à un mélange d'idéologie et d'amateurisme. Donc, mais ça tombe bien, parce que le livre n'est pas un livre uniquement d'économiste. Effectivement, c'est d'abord un livre d'épistémologie, en tout cas de réflexion, effectivement, sur qu'est-ce que c'est qu'un paradigme, comment ça s'impose, comment effectivement une science humaine et sociale n'est pas forcément une science absolue qui émet des vérités intangibles. C'est aussi un livre politique qui pose une question qu'en tant que politiste, on rencontre régulièrement, c'est comment des croyances finissent par s'imposer à tous et à être naturalisées au point de devenir effectivement des mythes. Hein. Et les mythes qui sont ici effectivement répertoriés, qu'on a déjà évoqués, sont assez importants à être pointés, parce que ce que nous dit finalement Éloi Laurent, c'est effectivement pas de remplacer des mythes par des mythes, d'autres mythes qui seraient plus vrais en quelque sorte, les mythes par définition on va dire, sont considérés comme vrais par tous, c'est plutôt de dire attention, il y a peut-être des fondements sur lesquels reposent ces mythes qui sont contestables, hein, de la même façon que on a pu contester des mythes religieux par le passé. Alors ma question, c'est qu'est-ce qui fait la force de ces mythes? C'est-à-dire, ça c'est une question effectivement qui n'est pas que d'économiste, parce que ce qui, au fond, une lecture un peu rapide de l'ouvrage pourrait conduire à dire bah au fond, il suffit de remplacer effectivement des croyances, de les mettre en cause, puis que ça s'ébranle. Mais ce que nous rappelle quand même entre les lignes de l'ouvrage, ou même explicitement, c'est que ces mythes, ils ont un ancrage social. C'est-à-dire quand on dit que les banques aujourd'hui, au fond, ont asservi d'une certaine façon les pouvoirs publics, c'est que ces banques, évidemment, elles ont aussi des économistes, elles ont des porte-paroles, elles ont des relais dans la politique qui entraînent effectivement une adhésion à ces croyances. Comment on fait pour détricoter ça? Sur quelle force sociale concrètement on s'appuie? Et puis, comment expliquer aussi que des gens qui n'étaient pas forcément convaincus au départ, c'est notamment indiqué à propos des socialistes des années 90, qui adhèrent complètement progressivement à cette idée que il suffit effectivement de libérer les forces du marché pour que ça soit efficace et que les inégalités demain disparaissent. Comment expliquer finalement que ça s'est ancré à ce point-là et qu'est-ce qu'on fait pour finalement renverser la vapeur là aussi vis-à-vis de ceux qui aujourd'hui, on les voit au gouvernement, semblent inébranlables malgré les appels de plus en plus importants d'économistes, y compris des économistes qui ne sont pas des gauchistes, moins qu'on puisse dire, qui pointent leur insuffisance.
Bon, et beaucoup de questions. Mais même si c'était des gauchistes, ça ferait pas forcément des personnes diaboliques.
Mais a fortiori.
Mais alors, je crois qu'il y a trois raisons pour lesquelles, au fond, des croyances deviennent des mythologies et des mythologies ensuite se cristallisent dans le système politique. Il y a les idées, les institutions et les intérêts. Hein. Donc, il y a les idées d'abord. Donc, il y a une énorme bataille intellectuelle à mener, mais qui est menée en réalité. Je pense qu'elle est menée. Je pense que ce paradigme économique est en train d'être contesté de façon absolument massive et que ce que nous avons face à nous, c'est pas tant le combat intellectuel dans le monde de la recherche. Je pense qu'en fait, celui-là, il est en grande partie derrière nous. Et notamment, la question des inégalités est tout à fait de manière maintenant centrale aux États-Unis, parce que c'est là que la crise des inégalités a commencé, c'est là qu'elle est la plus puissante, et c'est là que le combat en fait est en train d'être remporté aux États-Unis, et on va le voir. Je vais venir avec la question de Bernie Sanders qui incarne ça. Comment est-ce que les choses peuvent bouger? Bon, donc il y a les idées, et ça c'est un combat. Mais les idées, je dirais, c'est pas tant dans le monde de la recherche que c'est vraiment maintenant dans le débat public. C'est-à-dire que l'économie a été identifiée par des gens qui, y compris, ne sont pas économistes et ne connaissent pas forcément beaucoup d'économie, comme étant les idées normales. Ce sont précisément les paradigmes dominants. Donc ça, il y a vraiment un effort de désintoxication, non pas de l'économie, mais de l'économisme, et c'est précisément pourquoi ce livre existe. Bon, donc ça, c'est le combat des idées. Ça, c'est le combat que je mène. Il y a le combat des intérêts. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts puissants en place qui font que le paradigme existent et qu'ils dominent. Exemple, les énergies fossiles qui nous expliquent que la lutte contre le changement climatique est de toute façon trop coûteuse pour les systèmes économiques et que, oui, peut-être la question existe, ils n'ont pas toujours dit ça, mais aujourd'hui, d'accord, ça existe, mais de toute façon, ça coûte trop cher à résoudre donc l'industrie des énergies fossiles étant l'industrie la plus profitable de l'histoire du capitalisme. Donc, c'est des gens qui ont du pouvoir et là, il faut lutter activement. Ça, c'est le rôle des activistes. Quelqu'un comme Bill McKibben en France, d'autres en France qui luttent contre ça, Réseau Action Climat, etc. Des gens attaquent, qui luttent contre les intérêts en place. Donc ça, c'est les intérêts. Et puis les institutions, ça, c'est le combat politique. Le combat politique, c'est comment au sein même des institutions, vous allez avoir des gens, par exemple les députés écologistes, qui combattent la fraude fiscale, qui combattent la concurrence fiscale comme système normal de fonctionnement de l'Union européenne. Donc il y a une place pour tout le monde. Il y a une place pour des intellectuels, il y a une place pour des citoyens et des activistes, et il y a une place pour les responsables politiques. Et dernier mot, comment est-ce que ça peut changer? Comment est-ce qu'on peut construire des coalitions nouvelles? Bernie Sanders, c'est l'exemple en 9 mois. En 9 mois, gestation humaine quand même fulgurante. En 9 mois, on a quelqu'un qui n'existait pas au niveau national, qui aujourd'hui a une campagne qui va durer au minimum jusqu'en juin, qui vient de gagner le New Hampshire, qui est le candidat de la crise des inégalités aux États-Unis et qui est en train de bousculer de façon absolument fondamentale et le système de financement des campagnes électorales et la question que l'efficacité est la vraie question, la croissance est la vraie question, il ne faut pas se soucier des inégalités. Il est en train, en quelque sorte, de contester le Bill Clinton des années 90 en affrontant Hillary Clinton et en lui disant attention, la croissance, nous expliquer, nous refaire le coup de la croissance va régler le problème des inégalités, c'est pas vrai. Il y a aujourd'hui des pans entiers de la société américaine qui s'effondrent parce qu'on a cru à cette illusion que la croissance et l'efficacité, c'était les seuls débats qui étaient importants.
Antoine ?
Oui, Laurent, j'aimerais bien faire un petit test de désintoxication, justement. Par exemple, il y a une compétition internationale et pour arriver à s'en sortir, il faut être compétitif pour précisément vendre ce qu'on fabrique et avoir des emplois dans son pays. Et comment vous faites pour nous désintoxiquer de cette idée?
Alors là, déjà, donc il y a deux idées qui sont des idées complètement reçues. Première idée, pour avoir de l'activité économique dans un pays, qui n'est pas la croissance, l'activité économique, donc ce qu'on cherche déjà, c'est pas la croissance, c'est le développement humain, parce que la croissance, maintenant, on a compris que c'était un objectif intermédiaire qui nous bouchait l'horizon des vrais horizons qui sont le bien-être et la soutenabilité. Donc pour avoir du développement humain, il faudrait forcément exporter, être dans la mondialisation. Il y a des grands pays, il y a des petits pays. Les grands pays reposent avant tout sur leur marché intérieur. Les grands pays, la France, à l'échelle de l'Union européenne, c'est un grand pays. C'est un pays dont les exportations et les importations représentent quelque chose comme 15-20% grand maximum de la richesse. Oui, d'accord, mais ça veut dire qu'il y a 80% dont il faut s'occuper en priorité. Donc ça veut dire par exemple que si vous dites il faut baisser massivement les coûts du travail en supprimant les prestations sociales pour être compétitif à l'exportation, ce que vous allez faire, c'est déprimer un marché intérieur qui représente lui 80% de l'activité économique parce que vous aurez abaissé les prestations sociales qui servent à des gens à consommer.
Ah, je commence à être désintoxiqué là, oui, un petit peu.
Voilà, vous voyez, ça va mieux tout de suite là. Donc typiquement cette idée, voilà, et alors la compétitivité, c'est pas compliqué. La compétitivité, l'idéologie de la compétitivité, c'est ce qui a tué l'Europe. C'est ce qui a tué la construction européenne. L'Europe crève de cette idéologie de la compétitivité. C'est-à-dire ce qu'on a entendu sur la concurrence fiscale, la concurrence sociale, comme seul projet européen, c'est ce qui est en train de détourner massivement les citoyens européens de la construction européenne. Donc tant qu'on restera là-dessus, sur l'idée qu'on n'est pas capable de construire une culture de la coopération, mais que la seule chose qu'on peut construire, c'est une discipline de la concurrence, eh bien effectivement, on tuera la construction européenne, ce qu'on est en train de faire. Donc les mythologies économiques, c'est des mystifications politiques, et ça finit par détruire complètement des pans entiers du débat démocratique.
Frédéric Savicky.
Oui, vous parliez de Bernie Sanders tout à l'heure, mais Bernie Sanders, il est aux États-Unis, il n'est pas en Europe. C'est-à-dire que, quand bien même y aurait-il un Bernie Sanders aujourd'hui en France, comme d'une certaine façon il y en a en Espagne, peut-être en Grèce, ou en Royaume-Uni, on a l'impression que là, ce que vous venez de dire, sur le verrouillage par les traités européens, par la Cour de justice européenne, par le consensus qui règne effectivement dans tous les cercles du pouvoir bruxellois, font que, du point de vue, disons, d'un Français, comme probablement d'un Anglais, d'un Allemand, on a l'impression, et c'est ça peut-être qui explique l'impuissance, c'est qu'un Bernie Sanders est impossible de cette façon, parce qu'il faudrait qu'il soit européen, parce que comment on fait pour déverrouiller au niveau européen effectivement cette doxa, cette mythologie de la stabilité,
de la compétitivité,
de la concurrence comme le meilleur horizon ou un horizon indépassable de notre temps, enfin voilà. Donc,
y a deux
qu'est-ce que vous dites vous par rapport à l'Europe? Il faudrait s'éloigner.
Il y a deux réponses à ça. La première, c'est que quand même, on a eu des réponses politiques extrêmement fortes, au minimum en Grèce et en Espagne, avec des partis politiques qui ont émergé et qui ont pour le moins bouleversé le système politique. Syriza et Podemos, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont beaucoup bougé les choses. Alors ensuite, enfin, Syriza a été écrasé, plus exactement. Oui. C'est-à-dire que quand on est un parti politique d'un pays qui est dans une situation financière et économique extrêmement difficile et qu'on a face à soi un système idéologique qui a été construit depuis 50 ans avec des pouvoirs extrêmement puissants, c'est difficile de résister. Mais c'était quand même bien l'avant-garde de ce qui était ensuite ce qui est devenu Podemos, et Podemos, on voit bien qu'il y a quand même une montée en puissance par rapport à Syriza. Donc, d'une part, on voit ces mouvements émerger. D'autre part, malheureusement, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt du côté de l'extrême droite que ça émerge. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ces mouvements d'extrême droite sont la réponse exact des citoyens à ce qu'ils perçoivent comme étant la faillite du projet européen. Donc fondamentalement, on a des réactions. Le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit des réactions qui soient positives. On a des réactions négatives. Mais il ne faut pas s'y tromper. Le projet européen sera défait par le bas, par les peuples. Il sera défait soit de façon positive dans une révolution de l'alternative, soit il sera détruit de façon absolument catastrophique dans une révolution de la xénophobie et de la fermeture. Mais je veux dire, ce sont des réactions face à ça, il ne faut pas s'y tromper.
Éloi Laurent, moi j'aimerais revenir un moment sur cette idée de la compétitivité comme étant l'idée qui a tué, en particulier d'ailleurs en Europe, toute alternative politique ou économique digne de ce nom. J'aimerais vous entendre creuser cette idée, justement, pour éviter d'être dans l'affirmation, la compétitivité, il faut en finir avec cette idée que la compétitivité devrait être... Pourquoi c'est pas bien, la compétitivité? Ah non, vous avez dit qu'il fallait aussi sortir de l'idée que l'économie, c'est bien et mal. Donc,
non, mais c'est pas que c'est pas bien, c'est que... C'est comme quand l'économie dit combien ça coûte, combien ça rapporte. C'est pas une mauvaise question en soi. La question, c'est quelle est l'unité de compte? Si l'unité de compte du combien ça coûte et combien ça rapporte, c'est l'euro... et c'est la valeur purement monétaire, alors on se trompe. Si la question c'est la santé, combien ça coûte, ça rapporte en euros, alors on fait fausse route. Si c'est combien ça coûte, combien ça rapporte en espérance de vie, etc., on a un débat intéressant. Si l'idée c'est la pollution, c'est pas bien parce que ça coûte cher des milliards de dollars aux sociétés, c'est pas la question, ou des milliards d'euros. La question c'est que la pollution est un problème pour la justice sociale, pour le développement humain. Donc la compétitivité, quelle est l'unité de compte? Comment on définit la compétitivité? Compétitivité c'est quoi? C'est le coût du travail? C'est la formation de la main-d'œuvre, c'est la productivité des salariés, c'est les infrastructures. C'est quoi la compétitivité de la France? La compétitivité de la France, d'abord, c'est ses infrastructures, ses services publics et sa protection sociale. C'est pour ça que la France est admirée et connue dans le monde entier. C'est parce qu'elle a parmi les meilleures infrastructures du monde, et quand on vit un peu aux États-Unis comme moi, je vous garantis qu'on voit la différence en termes de qualité des routes, des ponts, etc., puisque les infrastructures américaines sont en train de s'effondrer après 30 ans de sous-investissement. Donc en France, on a investi massivement dans des infrastructures qui en effet coûtent cher et qui rapportent en effet beaucoup. Donc les infrastructures, les services publics, l'école, la santé, ce qu'on passe son temps à dénigrer en France, qui sont absolument admiré dans le monde entier. Le monde entier rêve du système de santé français et aimerait l'avoir. Et nous l'avons, et nous l'avons construit patiemment et avec des efforts. Donc voilà la qualité fondamentalement de la France. Par ailleurs aussi, des institutions politiques, etc. Donc la question du coût du travail comme le salaire, ça arrive très très loin dans la chaîne. Et si l'idée c'est, il faut avoir le coût du travail mesuré par le salaire le plus bas possible pour pouvoir entrer dans une compétition mondiale, alors il faut bien comprendre que le salaire le plus bas possible, ça veut dire une qualité de vie extrêmement faible, ça veut dire aussi pas de protection sociale parce qu'on a des cotisations sociales qui financent notre État-providence, et ça veut dire aussi par exemple que si on prend le nombre d'heures travaillées comme un étalon de la compétitivité au 21e siècle, ben on est tout simplement de retour au 19e. C'est-à-dire la compétitivité au 21e siècle, c'est aussi la qualité de vie. C'est aussi le fait qu'on puisse utiliser du temps libre qui a été dégagé. Donc voyez, le problème, c'est pas tant de dire les concepts économiques en tant que tels n'ont aucune utilité, mais il faut les travailler et il faut les discuter, et ils sont pluriels. Si on réduit la mono-idéologie économique consistant à dire la compétitivité, c'est le coût du travail, et le coût du travail, il faut qu'il soit le plus bas possible, ben là, on n'est pas dans un débat de l'économie du 21e siècle.
Mais c'est aussi que ceux qui détiennent ce discours-là et qui définissent ces termes, en particulier la compétitivité et tout ce que vous venez de dire à propos du coût du travail, notamment, Éloi Laurent, sont ceux qui estiment que leur qualité de vie est très bonne. Donc ils n'ont pas intérêt, pour revenir à la question des intérêts, à changer cet état de fait.
Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on instrumentalise des concepts économiques à des fins idéologiques. Et donc en effet, de même la productivité. La productivité, depuis les débuts de l'histoire humaine, c'est arriver à travailler moins pour avoir le même bien-être matériel et libérer du temps de loisir pour faire des choses qui sont considérées comme les plus utiles par les humains, c'est-à-dire l'amour, l'amitié, la culture, les loisirs, la réflexion. Donc aujourd'hui, les efforts de productivité qui sont demandés aux salariés français, c'est vous allez travailler plus pour le même salaire. C'est le contraire exact de ce que veut dire la productivité. La compétitivité entendue comme l'attrition des avantages compétitifs, c'est-à-dire que tous les avantages de la France dont j'ai parlé, on va considérer qu'on va les amoindrir, qu'on va être plus compétitif dans la concurrence mondiale. Mais non, on le sera moins, évidemment, on le sera moins. Et l'attractivité, c'est la même chose. L'attractivité, c'est se soucier du bien-être des gens qui ne vivent pas dans un territoire, pour essayer de favoriser leur investissement dans un territoire, par exemple en abaissant les impôts et donc la qualité de vie des gens qui y vivent. Donc on voit bien la façon dont ces concepts-là sont devenus des mythologies, et c'est ça l'idée de s'en en quelque sorte, il faut les réenchanter. Voilà.
Il y a peut-être une mythologie supplémentaire qu'on pourrait ajouter, mais je vous pose la question sur le plan politique. Est-ce qu'on peut imaginer, en admettant qu'on vous suive, qu'un gouvernement quelconque puisse effectivement mettre en place une autre politique alors qu'on nous dit que le système financier, que sais-je, immédiatement mettrait ce pays au banc des nations, en tout cas l'empêcherait de fonctionner ainsi. Vous avez parlé de la Grèce tout à l'heure, où l'exemple s'est produit avec Syriza. Est-ce qu'il y a une possibilité, au train où vont les choses, au point où nous en sommes de ce système économique, de sortir de ce système économique de manière, j'allais dire, douce ou transitoire pour faire autre chose?
Est-ce que c'est possible? Évidemment que c'est possible. Il n'y a aucun problème là-dessus. La question de la sanction des marchés financiers, c'est la question de l'importance du pays. Je veux dire, la France est un pays qui accueille 85 millions de personnes par an qui viennent en France. La France est un des pays les plus attractifs au monde. La France est un pays dont la dette publique veut être détenue par n'importe quel investisseur international parce qu'il se dit que c'est parmi les actifs financiers les plus rentables qu'il puisse avoir. Donc, la France, ne serait-ce que seule, a un impact absolument considérable sur les marchés financiers. Mais si c'est la France plus les autres nations de l'Union européenne, là on est tout simplement sur la première économie mondiale. L'idée sur laquelle l'Union européenne est une toute petite chose, une goutte d'eau dans l'océan de la mondialisation, c'est une plaisanterie. Il y a 500 millions d'Européens, c'est 30% de la mondialisation. Ce qu'on appelle la mondialisation, c'est un tiers de ça, c'est l'européanisation. Donc pas du tout. Ce sont des contraintes que nous imposons à nous-mêmes en expliquant ensuite qu'elles sont naturelles et qu'on ne peut pas les bloquer.
Parce que c'est le phénomène est toujours le même. Des politiques tiennent des discours différents et puis ils arrivent au pouvoir, on a l'impression qu'ils sont totalement bordurés par ce système précis.
Oui, enfin, je vous donnerai juste un exemple de ça, sur les règles européennes et leur caractère intangible. Mario Draghi arrive à la tête de la Banque Centrale Européenne en 2012. Il décide en juillet 2012 de réécrire unilatéralement les traités européens en expliquant que la Banque Centrale Européenne va pouvoir garantir les dettes publiques. Avec cette fameuse phrase qui est le « whatever it takes, quoi qu'il en coûte, je défendrai l'euro ». À la minute où Mario Draghi dit ça, les écarts de taux d'intérêt sur les dettes publiques entre l'Allemagne et les pays de la périphérie qui étaient énormes et qui menaçaient l'existence de la zone euro se referment. Donc Mario Draghi, d'un trait de plume, a réécrit les traités européens, le président de la Banque Centrale Européenne lui-même, et parce qu'il a changé les règles, en l'occurrence pour le meilleur, l'euro effectivement a été préservé. Alors qu'on vienne pas nous expliquer qu'on peut pas changer les règles européennes.
Frédéric Savicki.
Il y a trois mythes principaux qui sont dénoncés dans le livre. J'aurais qu'on s'attarde un petit peu sur le dernier qui est justement l'écolo-scepticisme. Bon, c'est parce qu'effectivement c'est à la fois ce qui selon vous est pour dire la voie peut-être pas de salut, mais en tout cas de redynamisation, d'un développement positif de l'économie, c'est-à-dire les emplois liés effectivement à la transition énergétique. Et là, vous pointez effectivement très justement quelque chose qui ne ressort pas de la contrainte européenne ou de la dette ou des marchés financiers. C'est effectivement la très très grande caractère très timoré, pour ne pas dire plus, des gouvernants quand il s'agit effectivement de, Notre-Dame-des-Landes, l'impôt écologique, l'impôt routier, sur lesquels on revient, le diesel ou ce genre de choses. C'est là vous pointez effectivement le fait que c'est pas tellement l'international qui est perçu comme une contrainte, c'est effectivement une contradiction qui fait que on peut faire la COP21 de l'autre côté et puis ne pas du tout mettre en place un débat sur la fiscalité écologique. Alors en fait, même que vous pointez dans le cas de la Suède notamment que ce pays qu'on présente souvent comme vertueux pour avoir réduit les dépenses publiques a en fait transféré une partie effectivement de sa fiscalité du travail mais vers la pollution, si on peut dire, et avec des résultats tout à fait impressionnants. Alors, je ne sais pas, peut-être l'occasion quand même de développer un peu votre analyse sur ce point.
Sur ce point, on peut dire les choses simplement. Au XXIe siècle, on va devoir faire face à des crises écologiques absolument majeures. Au minimum, trois crises. La crise du climat, la crise de la biodiversité, la crise des écosystèmes. Donc, il faut engager une transition, que moi je pense comme étant social-écologique et pas qu'écologique, social-écologique, c'est-à-dire combinant la question sociale et les questions écologiques, justement pour qu'on ne puisse pas les opposer de façon illusoire, donc les combinant pour précisément changer les attitudes et les comportements et changer nos systèmes de production et de consommation pour qu'on émette moins de CO2, qu'on arrête de détruire la biodiversité et qu'on arrête de détruire nos écosystèmes. Face à ça, l'économie ferme le jeu. Le discours économique dominant nous dit « non, non, ça va être beaucoup trop cher ». Tout, absolument tout, montre que ce qui coûte horriblement cher, c'est la non-écologie. Ce qui coûte horriblement cher, c'est le fait qu'on ne traite pas ces crises et qu'elles deviennent d'année en année plus dévastatrices en termes de vies humaines, et y compris d'ailleurs en termes de dégradation économique qu'on fait le littoral, etc. Donc là, on a affaire, en effet, à une mythologie, et la mythologie nous dit... Au fond, dans les années 80, les écolosceptiques nous ont expliqué les crises écologiques, ça n'existe pas. Ça, c'était la première étape. Ensuite, ils nous ont expliqué les crises écologiques existent, mais c'est pas la responsabilité de l'homme. Maintenant, ils nous expliquent ça existe, c'est la responsabilité de l'homme. Donc, comme quoi, ils nous menaient en bateau avant, mais simplement, ça va coûter trop cher de les résoudre. Et on instrumentalise l'économie contre l'écologie. C'est-à-dire, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on empêche de donner de la profondeur à l'économie. Il y a plein de gens qui travaillent sur les questions d'économie écologique, sur les modèles de transition, les villes en transition, les territoires en transition. Donc, qu'on arrête d'opposer à ça, typiquement l'argument Notre-Dame-des-Landes qui est « ah mais non, mais ça va détruire l'emploi ». Il y a parfaitement des projets alternatifs, rien ne dit que ça va créer le moindre emploi, et par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va faire exploser les émissions de CO2 et que c'est totalement orthogonal par rapport à ce qu'on a pris comme engagement à la COP21.
Hugo Laurent, tout à l'heure, je citais cet appel de 80 économistes pour sortir de l'impasse économique qui a apparu dans Le Monde la semaine dernière. Deux des signataires, Philippe Askenazy et Laurent Siamol, étaient les invités des matins de France Culture ce matin. Parallèlement, depuis quelques semaines, Thomas Piketty fait le tour de France et de Navarre avec l'appel des primaires pour la gauche, ou pour les gauches d'ailleurs, qui inclurait d'ailleurs les écologistes. Est-ce que vous, avec vos mythologies économiques, vous avez l'impression que vous apportez votre pierre au moulin, c'est-à-dire cette volonté, alors justement, soit par les journaux, c'est-à-dire la presse, soit par l'édition avec un livre, soit politiquement, plus directement en s'adressant publiquement, en créant des débats, en s'adressant plus directement au public, que tout ça participe d'un même mouvement.
Oui, en un sens, c'est-à-dire qu'on sait que les grandes manœuvres ont commencé, ça inclut les grandes manœuvres intellectuelles. Tout le monde a compris que les programmes sont en train d'être écrits aujourd'hui, à gauche, mais pas seulement à gauche, à droite, au centre, et que tout le monde, grosso modo, est en train de produire maintenant son effort intellectuel. Donc c'est pas très surprenant qu'il y ait un certain nombre de gens qui se disent, voilà, à un an et demi de l'échéance, il est temps de reposer les grandes questions pour la France, etc. Sur tous ces appels, bon, moi ce qui en l'occurrence on m'a sollicité pour l'appel des 80, vous me disiez pourquoi est-ce que j'ai pas signé. D'abord parce que moi je ne signe que ce que j'écris ou ce que je co-écris. Ça c'est un principe de ma parole publique qui est que si on me propose un texte tout écrit, on me demande de mettre mon nom au bas du texte, il faut que je puisse au moins voilà, changer ou ne serait-ce qu'une virgule. Donc je ne fais pas ça parce que je ne signe que ce que j'écris ou que ce que je co-écris. Et par ailleurs, justement, moi mon idée c'est de remettre en cause pas seulement la politique économique actuelle, mais le rôle de l'économie dans la démocratie. Donc l'idée, c'est pas de remplacer les mauvais économistes par les bons économistes, et l'idée, c'est pas de réaffirmer la toute-puissance de l'économie. Et de ce point de vue-là, je dois dire que je préfère la démarche du groupe des primaires parce qu'il est pluridisciplinaire. Parce que dans le groupe, autour de, il n'y a pas que Thomas Piketty, heureusement. C'est-à-dire qu'il y a aussi Dominique Méda, il y a aussi Michel Vivorca, et ça me paraît plus important. Si vous voulez être économiste, c'est pas un titre honorifique. Donc il n'y a pas de raison que cette parole-là pèse plus que les autres. Donc des groupes de chercheurs ou d'intellectuels ou même de citoyens, ça m'intéresse. L'idée selon laquelle on va dire quelle est la bonne parole économique, c'est justement un petit peu contradictoire par rapport à ma démarche. Et pour finir, je ne dirais pas que j'apporte ma pierre au moulin, mais plutôt que j'essaye de jeter des pierres sur les moulins avant, ce qui est une autre image.
Et c'est donc tout logiquement que vous avez choisi, Éloi Laurent, de terminer cette émission en musique avec Patti Smith et People Have the Power. Merci beaucoup d'être venu au micro de la Grande Table, Éloi Laurent. Nos mythologies économiques, un livre édité par Les Liens qui Libèrent. Merci à vous, Frédéric Savicky, et merci à toute l'équipe de la Grande Table, Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Antoine Sims. À la réalisation, c'était Philippe Baudouin. À la prise de son, c'était Yanis Djoudad. Bien entendu, cette émission, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, la réécouter et la télécharger sur le site de France Culture.